La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Présence. Très heureux d'avoir ce temps de partage avec vous cet après-midi. Je suis le pasteur Lugoyot, exerçant sur Colomiers et Lisjourdain. On se connaît depuis un certain temps maintenant et on est ravis de partager ces moments ensemble. Et je vais commencer une série d'études sur une parabole que Jésus a donnée, qui est la parabole de la semence. Donc, nos quatre prochains rendez-vous seront sur ce thème de la parabole de la semence. Quatre rendez-vous, pourquoi ? Parce que dans cette parabole, il y a quatre terrains et nous verrons chaque terrain à chaque étude. Je lis le texte que l'on trouve dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Matthieu 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette parabole est connue des lecteurs assidus de la Bible et elle fait partie de ce chapitre 13 de Matthieu où on trouve plusieurs paraboles qui concernent le royaume de Dieu. Nous allons y revenir car c'est important de considérer que Jésus veut nous expliquer la logique du royaume de Dieu. Elle nous parle donc d'un semeur qui sort pour semer. Ce semeur, c'est Jésus. Elle nous parle d'une semence. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Et donc, elle nous parle de quatre terrains. Au final, son but est de nous encourager à être des bonnes terres pour bien recevoir la semence et porter du fruit à la gloire de Dieu. Une dernière remarque dans cette introduction, Jésus nous compare à de la terre. Je trouve que cela a du sens lorsqu'on sait comment a été créé l'homme. Dieu nous lie à la terre et c'est important de considérer d'où nous venons. Nous verrons donc dans les prochaines études qui suivront les quatre terrains qui sont énumérés dans cette parabole. Le premier terrain qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le chemin. On va se poser plusieurs questions. La première question, est-ce judicieux de semer sur un chemin ? Alors on peut répondre tout de suite... Lorsque les semences sont portées avec le vent, certaines tombent à côté du champ, s'il y a à côté du champ un chemin, donc il y a aussi de la semence qui tombe sur le chemin, mais ce n'est pas volontaire. Et c'est vrai que dans la vie réelle, il en est ainsi. Mais nous parlons ici du royaume de Dieu. Peut-il y avoir du hasard ou quelque chose d'involontaire dans ce que fait Jésus ? C'est Jésus le semeur. La réponse pour moi, elle est simple, c'est non. Jésus ne fait rien au hasard. Et donc si il y a de la semence qui tombe sur le chemin, c'est que Jésus le permet. S'il avait voulu qu'elle ne tombe que sur la bonne terre, il ne l'aurait fait tomber que sur la bonne terre. La logique du royaume de Dieu n'est pas celle des hommes. Les hommes ne sèmeraient jamais sur un chemin. Alors que Jésus, lui, sème sur le chemin. On doit vraiment réaliser comment fonctionne le royaume de Dieu. D'abord, le semeur, nous l'avons dit, c'est Jésus, ou c'est Dieu. Dieu est celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Donc pas de choses involontaires. Mais surtout, cette semence, ce n'est pas une semence commune, une semence banale. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Que dit la Bible sur cette semence? Lisons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous sommes ici encouragés sur le fait que cette semence, elle a plusieurs vertus. D'abord, elle régénère. Et on comprend pourquoi elle peut être jetée sur un chemin, puisque en elle-même, il y a régénérescence. Et puis, cette semence est incorruptible. Elle ne meurt pas. Une semence normale jetée sur un chemin qui prend le soleil finirait par pourrir. Il n'en est pas ainsi de la parole de Dieu. Elle ne pourrit pas, elle ne se détériore pas. Elle est incorruptible. La parole est une puissance à elle toute seule. Chaque fois que vous parlez de la part de Dieu, parce que Dieu peut nous utiliser pour parler, alors vous pouvez considérer que quand vous l'avez fait, si vous l'avez fait, la parole que vous avez donnée ne mourra jamais. La parole est suffisante pour découvrir qui est Dieu. Je suis aumônier de prison et j'ai vu plusieurs fois des personnes se convertir à la foi simplement par la lecture de la parole, sans intervention d'un prêtre, curé ou autre. Dans l'islam aussi, on rencontre plusieurs personnes qui, seules face à la parole, se convertissent. Dans l'explication de la parabole que nous allons lire maintenant, Dieu prend le temps d'expliquer ce qui se passe pour la semence tombée sur le chemin. C'est donc, et cela confirme encore, que ce n'est pas une inadvertance, cette semence tombée sur le chemin. Et ça nous amène à la deuxième question, que représente le chemin? Eh bien, Jésus nous le dit, nous avons la chance d'avoir ici une parabole, celle de la semence, qui est expliquée par Jésus lui-même. Et l'explication débute au verset 19 du chapitre 13, toujours, Matthieu 13, 19, et nous y lisons ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. L'expression l'homme qui ne comprend pas la parole, elle devrait être traduite plus exactement par l'homme qui n'accepte pas la parole. Il ne la comprend pas dans le sens où il n'est pas d'accord. Et en fait, quand on commence à contester, à remettre en question la parole, cela permet au diable de venir enlever la semence. Les oiseaux qui viennent manger la semence, c'est l'image du diable. Le diable, son but est que la semence ne porte pas de fruits. C'est son job. Et lui ne veut pas que la parole de Dieu fasse son effet en nous. Il a horreur de cela. Il veut bien que nous écoutions la parole, il veut bien que nous nous réjouissions de l'écouter, mais qu'elle porte du fruit en nous, non, ça il ne le veut pas. Je voudrais vous poser une question. Comment est la terre sur un chemin? Oui, vous l'avez tous certainement dit. Sur un chemin, la terre, elle est dure. Elle est tassée. Elle a été piétinée. Donc, il n'est pas facile d'y pénétrer. Nous savons que ce chemin, cette terre, représente nos cœurs, nos vies. Et nos vies ont pu être endurcies, nos cœurs ont pu être endurcis. Et c'est ça l'image du chemin. Quelles sont les causes qui peuvent endurcir notre cœur? Elles sont de deux ordres. Il y a les causes que j'appellerais traumatiques, et puis il y a les causes qui sont internes à notre propre personne. Les causes traumatiques, ce sont les épreuves de la vie, les injustices que nous avons subies, les traumatismes, les déceptions, les trahisons. Beaucoup de choses qui sont intervenues dans nos vies et qui font que bien, nous nous sommes renfermés dans notre coquille et c'est dur. C'est dur de venir pénétrer à l'intérieur. Et si c'est dur pour ceux qui nous entourent, c'est aussi dur pour Dieu, lorsqu'il s'adresse à nous, d'être entendu. Puis il y a l'endurcissement qui est dû à notre propre personne, notre orgueil, nos raisonnements, notre culture, notre tradition, nos préjugés et les préjugés concernant la religion, ils n'en manquent pas. Parce que malheureusement, souvent, les hommes mettent Dieu comme responsable de ce que les religions ont fait. Et les religions, ce n'est pas Dieu. Les religions, ce sont ce que les hommes font de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui doit nous conduire et nous guider. Aucune religion, de toutes sortes que vous puissiez prendre, protestante, catholique, évangélique, n'est parfaite. Parce que ce sont des hommes qui l'établissent. Mais Dieu est parfait. Et c'est justement en recevant sa parole à lui directement qu'on pourra recevoir l'enseignement dont nous avons besoin. Donc toutes ces choses, que ce soit les épreuves de la vie, les traumatismes, mais aussi notre culture, notre orgueil, nos raisonnements, tout ça, ce sont des entraves à ce que Dieu puisse faire son œuvre dans nos cœurs et puisse avoir devant lui quelqu'un d'obéissant, de docile. C'est ça l'image du chemin. C'est tout ce qui peut nous endurcir face à la semence qu'est la parole de Dieu. Un cœur endurci, c'est un cœur qui rend esclave. On est prisonnier soit de notre passé, soit de nos pensées, de nos raisonnements, et on ne peut pas en sortir. Et c'est terrible. J'aimerais terminer en partageant avec vous le fait que le changement est possible, même sur le chemin. La semence peut porter du fruit, même sur le chemin. Si vous décidez que votre cœur reste comme un chemin, il ne se passera rien, c'est sûr. Mais si vous décidez que votre cœur, qui ressemble à un chemin, devienne une bonne terre, alors la semence peut venir vous régénérer. Je vous rappelle ce que nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, les prophètes annoncent la venue du Messie, mais pas seulement sa venue. Ils annoncent aussi les effets que cela va avoir. Et on peut penser à Isaïe dans le chapitre 61 qui dit que Jésus viendra pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Et puis on peut penser à Ézéchiel 36, où il est dit que le Messie viendra, il nous donnera un cœur nouveau, et mettra en nous un esprit nouveau. Et il ôtera de notre corps le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. C'est Ézéchiel 36, 26. Juste après, dans le chapitre 37, on voit ce qui se passe dans la vallée des ossements desséchés. Cette vallée qui ressemblait à un chemin, un sol dur, où il n'y avait plus d'espoir de vie possible. Alors qu'Ézéchiel va prophétiser, cette vallée va reprendre vie. Nous voyons que Jésus exercera son ministère. Je pense à la prostituée, l'image d'un cœur brisé qui voit sa vie changer après sa rencontre avec le Christ. Je vois aussi Saul de Tarse, un cœur rempli de préjugés, de raisonnements, et qui succombera devant la bonté de Jésus. Jésus a semé dans le cœur de la prostituée qui était comme un chemin. Il a semé dans le cœur de Saul de Tarse qui était comme un chemin. Et la vie a éclos. Amen. Je voudrais vraiment vous interpeller cet après-midi. Où en êtes-vous ? Quel est l'état de votre cœur ? Nous allons voir quatre terrains possibles. Peut-être vous retrouverez-vous dans les terrains qui vont suivre, mais il y a certainement des auditeurs qui se sont reconnus, qui peuvent dire « Oui, mon cœur est comme un chemin. Au fil des années, mon cœur s'est endurci. Je reconnais que tout ce passé qui m'accable, c'est ce qui dirige mon existence. C'est ce qui m'empêche de m'épanouir. C'est ce qui m'empêche de faire confiance. C'est ce qui m'empêche d'aller de l'avant. C'est ce qui m'empêche de pardonner, d'être libéré. » Ou peut-être tu reconnaîtras que tu es quelqu'un d'obtus, qui pense toujours avoir raison, qui connaît tout sur tout. Et évidemment, quand Dieu parle, ben, tu ne comprends pas, si tu n'es pas d'accord avec sa manière de voir les choses. Tu as ta manière bien à toi d'analyser les circonstances, l'actualité. Parfois même, tu rends Dieu responsable de tout ça. Et le Seigneur aimerait vous inviter à déposer ce cœur dur devant lui en faisant cette prière. Seigneur, viens changer mon cœur de pierre en cœur de chair, comme tu l'as promis. C'est quelque chose que tu as promis au travers du prophète Ézéchiel, que tu ferais lorsque tu viendrais comme le Messie. Tu es Jésus-Christ, tu es vivant. Si ces choses sont possibles, c'est parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu m'as pardonné. Et donc tu es capable de faire germer en moi quelque chose de nouveau, malgré toute cette mort qui a été semée, malgré cette sécheresse qui est là et qui a endurci mon cœur. Seigneur, je prie que tu viennes faire ton œuvre en moi. Faites cette prière. Faites-le d'un cœur sincère et vous allez commencer à connaître un changement. J'ai personnellement vu dans ma vie des cœurs durs devenir des cœurs de chair. Des gens esclaves de leur passé, être libérés, s'épanouir. Des gens enfermés dans leur raisonnement qui sont devenus des gens à l'écoute, capables de se remettre en question. Tout cela grâce à l'œuvre puissante de cette semence qui est une semence régénérante, vivante et incorruptible. Est-ce que tu veux connaître un changement ? C'est une occasion qui t'est donnée ce soir alors que tu écoutes cette émission. Tu peux simplement faire cette prière que j'ai faite et demander à Dieu d'intervenir et changer les choses dans ta vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es présent alors que nous échangeons sur ce texte biblique, tu es d'accord que nous le faisions. Et malgré les imperfections de mon message, je sais que tu peux toucher le cœur des auditeurs, ceux qui ont le cœur dur et qui le reconnaissent. Et il y a une possibilité de salut pour eux. Merci Seigneur parce que tu ne dédaignes pas ceux qui ont le cœur dur, tu ne les délaisses pas pour te tourner uniquement vers ceux qui ont un cœur tendre. Tu viens aussi chercher celui qui a le cœur dur. Parce que tu es un Dieu de grâce et que la logique du royaume n'est pas la logique des hommes. Tu viens chercher même ceux qui sont contre toi. Combien tu es bon, combien tu es grand et rempli d'amour. À toi soit toute la gloire. Amen. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Radio Présence.
J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce ta vie pour